Boker Tov.
Boker Tov.
Ce matin, nous sommes à 30 jours de la fête de Pessah, et il est rapporté que dès le lendemain de Pourim, en fait, Shloshim Yom Lifnei Hag, 30 jours avant la fête, Shoalim Vedorshin, on commence à étudier les lois relatives à la fête de Pessah, à en étudier les multiples significations. Et d'ailleurs, dans la paracha que nous lirons ce Shabbat, la paracha de Tzav, il est déjà question des matzot, alors non pas en relation avec la fête de Pessah, mais en relation avec le travail des Kohanim dans le Beit HaMikdash, dans le Temple, puisque la Torah expose la loi relative au Korban Mincha, c'est-à-dire à l'offrande de farine. Et dans ce cadre-là, la Torah nous dit que, à propos de Aaron et de ses fils, Matzot Teachel Bemakom Kadosh, les matzot, les pains azim, donc seront consommés Bemakom Kadosh dans un endroit sacré, c'est-à-dire dans le sanctuaire. Et la Torah précise Bachatsar Oel Moed Yurloa, Aaron et ses fils mangeront de cette matza Bachatsar Oel Moed dans la cour de la tente d'assignation. Le Oel Moed, c'est comme ça qu'on appelle le Mishkan. Et donc, déjà, il est question ici de la matza et également de cette déduction possible, à savoir que le soir du Seder, où on a l'obligation de manger la matza, chaque maison peut se transformer en Oel Moed, en tente d'assignation, c'est-à-dire dans cet espace de rendez-vous et de rencontre entre Akadosh Baruch Hu et les enfants d'Israël. En Oel Moed, dans tous les sens du terme, puisque la fête de Pessah est désignée également comme étant un Moed. On parle des trois Moedim, les trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot. Donc Oel Moed, c'est l'attente du rendez-vous spatial et du rendez-vous également temporel. Et c'est la raison pour laquelle, pour les jours qui viennent jusqu'à la fête de Pessah, nous nous proposons de dire quelques mots à propos de certains textes de la Haggadah de Pessah. Et aujourd'hui, on va peut-être dire un mot sur l'un des tout premiers textes qui apparaît dans le récit de la Haggadah, où il est dit « Avadim ayinu les pharo bemitraïm ». Nous allons nous intéresser pendant quelques jours à ces quatre mots. « Avadim ayinu », nous étions des esclaves, les pharo pour Pharaon, bemitraïm en Égypte. Avadim, Hayinu, nous étions des esclaves. Hayinu, nous étions, c'est le verbe liot, être, qui est utilisé ici. Et donc, il y a d'emblée ici l'évocation d'une situation d'être. Ce n'est pas que nous étions des hommes devenus esclaves, mais encore des hommes, c'est-à-dire avec cette conscience d'être encore hommes. Non, nous étions devenus des avadim, nous étions devenus des esclaves. Notre nature était devenue esclave, d'être esclave, et on avait oublié même que nous étions des hommes. C'est exactement ce qui se passait dans les camps de concentration et les camps d'extermination lorsque les rescapés ont pu écrire qu'ils n'étaient plus du tout considérés comme des hommes, ni par les nazis bien évidemment, mais même dans le regard qu'ils se portaient sur eux-mêmes, il était extrêmement difficile de maintenir ce sentiment de dignité. Et le texte a dit « Avadim ayinu les pharaons ». Alors, pharaon en hébreu, bien évidemment, c'est pharaon, mais pharao vient de la racine hébraïque « para »,« pe resh ayin ». Or, cette racine-là veut dire « supprimer »,« annuler », car l'institution pharaonique qui rend esclaves les enfants d'Israël va précisément « supprimer » et « annuler ». Le sentiment de dignité d'être humain des enfants d'Israël. Et donc, la Yetzia Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est pas simplement la fin de l'esclavage, mais ce n'est pas simplement un changement de statut où un être humain était privé de sa liberté et puis ensuite la retrouve. Non, ici, il est question d'un changement d'essence et de nature profonde où les enfants d'Israël, qui jusque-là étaient des esclaves, ils vont devenir des hommes.